RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG vous salue, bonjour à tous. C'est parti pour le 32-16 pour être en direct avec nous jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Oui, bonjour. Non, parce qu'on hurle en même temps dans l'oreillette. Vous savez, on a une petite
oreillette.
T'es dissipé,
transparence.
Non, voilà, mais c'est,
hurle
c'est l'âge.
Dessus. Non, je ne suis pas sourd, j'entends bien dans l'oreillette. Peu, bonjour à tous, bonjour les grandes gueules.
Dans les GG aujourd'hui, Zora Bitton, cadre de la fonction publique. Bonjour ma chère Zora.
Bonjour à tous et un petit bonjour à la tribu de Zora, comme d'habitude.
Nous sommes avec Sandrine Pégan, avocate. Bonjour Sandrine,
bonjour
maître
à
Pégan.
Tous. On espère que vous êtes en forme comme nous le sommes.
Elle a tué un léopard, Sandrine.
Ouais, grave. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis la petite tigresse aujourd'hui.
Et puis nous sommes avec
elle aime bien ces genres
Didier
de.
Didier Giraud, agriculteur de Saône-et-Loire. Bonjour mon cher Didier.
Bonjour, bonjour à la France profonde.
Tu bien, ça aussi, une petite chemise comme ça.
Ouais, non, léopard, vache, la prochaine
tu
fois que tu fais
léopard,
vache.
De léopard, ouais.
Ne pas te lancer dans l'élevage de léopard ou de tigre en Saône-et-Loire.
L'avenir, je veux dire.
Non, moi, je vous propose que le prochain plateau, il est animalier. Qui... Hein.
Bah oui,
il y a plus personne qui veut élever des vaches. Donc, laisse-moi élever des vaches.
Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les grandes gueules? On a un invité candidat à l'élection présidentielle dans les GG tout à l'heure à 11h. C'est Bruno Retailleau, le patron des Républicains. Avec lui, on va passer bien sûr en revue l'actualité. On aura parlé des expressions comme chemin de croix qui visiblement gênent à la télévision. C'est ce qui s'est passé dans l'émission de Bruno Guillon. Chacun son tour de Sophie la girafe qui n'est pas fabriquée en France. Mais d'abord, le carburant Total qui dit au gouvernement, écoutez, nous on fait les ristournes. Si jamais vous faites la surtaxe, fini les ristournes. Allez, on en parle au 32-16.
Quand Total et d'autres font des super profits, le font simplement parce que la crise géopolitique est là et qu'ils en profitent.
C'est vraiment trop injuste.
C'est facile de triquiter tout le monde.
Ce plafonnement, nous l'avons décidé de nous-mêmes au début de la crise. C'est ce que rappelle dans une interview à Sud-Ouest le patron de Total, le PDG Patrick Pouyanné.
Et sa menace est très claire. En cas de surtaxe, nous ne pourrons pas maintenir le plafonnement des prix. Voilà ce que dit Patrick Pouyanné. En fait, en cause, ce sont les quelques 4,96 milliards de bénéfices de la compagnie au premier trimestre. Ce qui fait dire à Olivier Faure, qui était ce matin l'invité d'Apolline de Malherbe, il faut taxer ces super profits de Total. Eh bien, le président Pouyanné répond à cela, très bien, si vous nous surtaxez, ben nous on arrête de plafonner. On peut pas faire les deux. Et d'autant plus que il va plus loin et dit, moi, je ne vais pas m'excuser de performer et de faire réussir mon entreprise, parce que c'est son job, monsieur Pouyanné, c'est de faire des profits avec son entreprise. Et d'ailleurs, il va plus loin, il dit qu'il faut en être fier, il n'y a aucune honte, cela signifie que l'entreprise fonctionne bien. Donc, est-ce qu'il faut effectivement laisser Total décider de plafonner, ou au contraire, prendre son argent, et ensuite le problème, c'est qu'on sait pas trop ce que l'État... On ne sait pas trop ce que l'État en fait. Parce que c'est ça un peu le problème, c'est que si l'État prend l'argent de Total, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce que ça ira dans les poches automobiles? Alors que je peux vous dire, en ce moment, les gens se ruent dans les stations Total parce que Total est moins cher que Leclerc. Donc, est-ce que c'est pas plus efficace le plafonnement de Total? Qu'est-ce que vous en pensez,
Zora?
Cette histoire de carburant est vraiment kafkaïenne. Elle est à l'image de notre administration. En fait, faut vraiment lire, relire, s'y pencher, faire toute une étude pour essayer de comprendre ce que c'est cette histoire de carburant. D'abord, il y a une chose simple, c'est que quand les Français vont à la pompe, ils payent. Eux, ils sont pas dans les dédales administratifs. En train d'essayer de comprendre comment le gouvernement va vous baisser un centime ou deux centimes. Il paye, il roule, il bosse. Point. Ça, c'est le sujet de la réalité. Ensuite, que se passe-t-il? Pourquoi on ne laisse pas le sujet Total de côté? On laisse Total plafonner. Et derrière, on nous dit que sur l'ensemble des budgets, tout est tendu. Et d'ailleurs, que les études, tous les jours, les costards sont au travail avec Excel et les PowerPoint pour essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent gratter de l'argent. Pourquoi on baisse pas autre chose, d'autres postes beaucoup plus, qui toucheraient beaucoup plus de gens, ce qui permettrait de faire un équilibre avec le carburant. On laisse Total faire ses profits. Si les gens font des profits dans le privé, je vois pas pourquoi l'État s'en mêle. En plus, il propose un plafonnement des prix. Ça veut dire que la question du pouvoir d'achat, elle est une fois de plus. L'airbag, il est fait par des citoyens et non par l'État. Donc, c'est à l'État de trouver une compensation de cette augmentation de carburant ailleurs, dans d'autres postes. Je sais pas lesquels, l'alimentation, la TVA ailleurs, etc. Mais il faut le carburant. On nous dit qu'on n'a pas de levier dessus à cause de la guerre, très bien. Total propose un levier et on veut aller encore pourrir Total, qui menace justement de ne plus le plafonner. Donc c'est encore essayer de, j'allais dire, de trouver une solution bancale, comme d'habitude, alors que la vraie solution peut être trouvée dans la réduction de quelque chose par ailleurs qui toucherait un maximum de Français. C'est tout. Mais si, parce que quand t'as un budget.
Cool, par ailleurs.
Mais
d'ailleurs, M. Lecornu, hier, a annoncé à l'Assemblée nationale de nouvelles aides. M. Lecornu a annoncé qu'il allait élargir ses aides.
Oui, mais voilà, les aides.
On va changer d'échelle.
Au lieu de baisser quelque chose ailleurs, c'est-à-dire impôts, charges salariales, patronales, de manière à ce que tous les salariés puissent s'en sortir.
Non, mais.
Voilà, on cherche encore à faire des chèques.
Est-ce que la menace de Total est justifiée ou c'est un ami?
Alors pour moi, oui.
Après, Total, c'est pas des philanthropes, c'est une entreprise privée qui réalise des bénéfices. Donc, à un moment donné, ils ont fait un choix commercial. C'est pas juste parce que c'est des bons samaritains. Ils ont fait un choix commercial de dire on plafonne. Ce qui leur permet de plafonner, alors certainement leurs 4 milliards de bénéfices qu'ils ont fait ailleurs qu'en France d'ailleurs, mais c'est surtout et avant tout parce que ça fait des années qu'ils sont 15 centimes plus chers que les concurrents, quoi. Et si aujourd'hui ils sont capables de plafonner, c'est parce qu'ils ont fait leur propre trésor de guerre qui leur permet de plafonner, ce que n'a pas fait l'État. Et aujourd'hui, toutes les injonctions...
Si l'État avait un trésor de guerre, il pourrait aider davantage les automobiles.
Qu'est-ce que fait l'Italie? Qu'est-ce que fait l'Espagne? Qu'est-ce que fait l'Allemagne? C'est ce qu'ils font. Et à un moment donné... toutes les injonctions du Premier ministre, moi, elles me font doucement rigoler, puisque lui, il n'a pas été capable de constituer un budget correctement, puisqu'il a dû abandonner toutes les réformes de ces 5 dernières années afin de pouvoir se maintenir et de faire un budget.
Et de pas être censuré
dans l'effort. Aujourd'hui, il a zéro marge de manœuvre et il est obligé de dire on va aller piquer des sous chez Total. Moi, il y a un autre truc qui me gêne là-dedans, c'est que si l'État prend ses 4 milliards de bénéfices, combien vont revenir dans notre poche? Quand je vois l'efficience de l'État à collecter de l'impôt et à redistribuer un tiers de ce qu'ils ont collecté, parce que le reste, ça part dans les frais de fonctionnement, je suis très inquiet, si ça devait être cette solution-là, que de prélever l'impôt chez Total et nous le redistribuer. Moi, je pense qu'il faut faire ce qu'ils ont fait depuis le début, ne surtout pas s'en occuper.
Donc le chantage est justifié ou pas?
Bah oui, le chantage, il est justifié, puisque Total, ils le font, les forts.
Sandrine Pégan.
Moi, ce qui me dérange, c'est ce rapport de force qu'il essaie d'instaurer, je trouve, Monsieur Patrick Pouyanné. En fait, il joue le rôle du ministre des Carburants avec les aides qu'il donne aux automobilistes. Mais ce rapport de force, finalement... Il fait du commerce, d'accord, mais là, il impose, il est juste en train de dire que bah, si vous allez me taxer mes super profits, bah, moi, je risque de me barrer. En fait, c'est ça.
Bah, il n'a pas tort.
Il a pas tort, peut-être, selon toi.
Selon sa propre logique.
Oui,
mais peut-être qu'il n'y a pas intérêt. Il l'a dit, mais il n'a peut-être pas intérêt.
Total Énergie, je veux dire, c'est un outil pétrolier tricolore. On en a besoin.
Ils font leurs bénéfices ailleurs qu'en France.
Mais, sauf que, regarde, n'oublie pas une chose, c'est que c'est le siège, il est en France, il est à Paris la Défense, le conseil d'administration est français, il y a beaucoup d'actionnaires qui sont américains, etc. Donc à un moment donné, il peut aussi jouer sur le fait que, d'ailleurs ça s'est passé en 2024 parce qu'il a voulu aller sur le marché de la bourse de New York, mais là il peut très bien dire bah attendez, moi je vais déplacer mes investissements, je vais faire autre chose. Donc c'est ça en fait ce rapport de force. Moi c'est ça qui me dérange.
Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que on s'en prend une entreprise qui fonctionne, qui est déjà taxée. Je rappellerai qu'il y a déjà une taxe sur les grandes entreprises. une surtaxe sur les grandes entreprises. D'ailleurs, sans doute, puisque Total a fait des bénéfices, que cette année, en 2026, ils paieront cette surtaxe. Mais il faut quand même rappeler deux choses, et ce qu'Olivier Faure ne rappelle pas, c'est que, un, Total fait quasiment tous ses bénéfices ailleurs qu'en France. Il est plutôt souvent déficitaire en France parce que les raffineries, notamment de Total, ça fonctionne pas très bien. D'ailleurs, il y avait même une menace de fermeture de raffinerie. Et d'ailleurs, si Pouyanné décide de fermer ses raffineries, on sera les premiers à râler parce que ça fera du chômage en plus. Deuxièmement, ce n'est que 30% des stations-service Total en France. Ce n'est que 30%. Donc on focalise sur Total, mais enfin 70% des stations-service ne sont pas Total. Et troisièmement, factuellement aujourd'hui, c'est moins cher d'aller faire le plein chez Total que chez Leclerc. Et on nous dit que Leclerc, il fait pas de marge non plus. Donc en fait, c'est effectivement un marché dû, comme disent Zora. C'est-à-dire que, en fait, on nous enfume, c'est-à-dire qu'on désigne un bouc émissaire pour qu'on oublie que ce qu'on paye à la station service et avant tout des taxes. C'est des taxes et des impôts, c'est de la TVA, c'est l'assise.
D'accord, mais Leclerc et Super U, par exemple, l'essence qui nous servent, c'est de l'essence Total. Donc si tu veux, Total est à tous les maillons de la chaîne.
Parce que Total est aussi un
raffineur, producteur, distributeur. Et donc, ce que disent Leclerc et ce que dit Super U, à tort ou à raison, ils disent, oui, mais Total nous vend au prix fort. C'est pour ça que nous, derrière, comme on fait déjà quasiment pas de marge dessus, on peut pas baisser les prix. Après,
Total, il les tient aujourd'hui.
Oui, en fait, Total, ils ont la main sur tout le marché.
Parce que aujourd'hui, les queues qu'il y a à Total, c'est parce qu'il est moins cher que Leclerc et Super U. Et à un moment donné, il va pas baisser le prix de ces matières premières à Leclerc et Super U pour les remettre dans le jeu de la compétitivité.
Bah non. Faut le comprendre. Il tient tout le monde, là.
Et en dehors de ça, ce que t'as dit, Olivier, t'as oublié un truc. C'est que dans la ristourne que fait déjà Total aux consommateurs, il y a aussi les 14 centimes de conversion, là. Enfin, je sais plus comment ils s'appellent, là. Ceux qui vont vers les, qui sont
plus. Oui, la C2E. La contribution écologique.
Cela, tout le monde la paye, quoi, hein. Oui. Et cela, elle va à l'État, quoi, hein. Et comment l'État redistribue ça?
Elle va à la transition écologique.
Oui, bah, je suis désolé, hein. Les éoliennes, ça va dans une caisse de l'État, c'est l'État qui redistribue. Le seul qui pourrait vraiment faire quelque chose et baisser, enfin, c'est Bercy, quoi.
Oui.
C'est Sylvie qui veut en parler avec nous.
Ils n'ont pas de marge de manœuvre.
Sylvie qui nous appelle du côté du Vésiné dans les Yvelines. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour à tout le monde. Merci de me permettre de passer à l'antenne.
Je vous en prie Sylvie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Il fait du chantage Total, c'est pas bien ou pas?
Non. Alors moi je trouve que Total, il fait de l'économie de licence de première année. C'est-à-dire que s'il a des sous, c'est-à-dire donc des super profits, c'est donc qu'il vend cher son pétrole. Ou je veux dire son essence et son gasoil. Si il limite son prix de vente, ce qu'il fait actuellement, eh ben il a moins de super profits, vous voyez. Et puis ça c'est le numéro un. Deuxième chose.
Mais il a plus de volume.
Deuxième chose. Il n'y a pas que Total qui vend du pétrole, de l'essence et du gasoil en France. Hein, j'ai entendu c'est 30%.
C'est 30% Total les stations-service.
Hein, je vois pas pourquoi c'est le seul à qui on crie au.
Parce qu'ils n'ont pas dégagé 5,8 milliards les autres si vous voulez.
Là, c'est ça.
Voilà. Oui mais quand même si vous voulez les autres ils continuent à vendre et c'est beaucoup
plus cher. Jamais d'Esso par exemple.
Dans les autres pays.
Oui, Standard Oil, ils sont pas au niveau de Total aujourd'hui. Ce qui intéresse le gouvernement. C'est pas les impôts d'Esso, c'est les impôts de Total.
Allez-y. Mais sauf que les impôts de Total ne sont pas français. Et
je pense que Total, Esso, quand il gagne de l'argent en France, il paye
déjà
en France. Hein.
Oui, non, mais je veux dire, Olivier Faure, par exemple, moi en français, quand il dit qu'on peut taxer.
Je fais confiance à Olivier Faure pour faire de l'économie. Alors, il y a des gens à qui on veut pas que ses enfants aillent dans la voiture avec eux. Moi, monsieur Olivier Faure, je lui donne pas mes sous.
Ce qu'il oublie de dire, c'est que taxer les super profits, il peut pas taxer les super profits qui sont faits à l'étranger, c'est dans la loi. On peut pas taxer des profits qui ne sont pas en France.
Effectivement. En plus, je veux dire.
Mais vous savez, il y a un argument massue aujourd'hui, Sylvie.
Donc on est quand même dans la démagogie.
En fait, Total fait du profit alors que c'est la guerre. Donc si vous voulez, c'est un méchant, c'est un profiteur.
C'est pas lui qui a déclenché la guerre.
C'est un profiteur de guerre. Et donc si vous voulez, comme en plus il a acheté un million de litres avant la crise et derrière ça lui a rapporté 1 milliard. Donc on dit c'est pas bien. Vous faites sur la guerre. Vous êtes un profiteur de guerre. Donc ça c'est l'argument massue.
Mais là il a été malin.
Mais oui.
Ah non mais je suis d'accord avec toi.
Alors ça serait bien d'avoir des chaînes d'entreprise qui soient nulles.
Voilà l'argument massue de l'argent.
Non mais voilà. Si l'État français avait été aussi fort que Pouyanné, peut-être il aurait pas bazardé son industrie. l'industrie d'armement. C'est dingue. Puis ces jours, on sera en train de vendre des missiles pour alimenter le dôme de fer. Et puis du coup, nous aussi, on en ferait des super.
Mais comme l'État français est nul depuis 50 ans, si tu veux taxer Total, taxe aussi les industries d'armement françaises.
C'est dingue, ce qui est dingue.
Mais non, mais même l'industrie d'armement française, c'est devenu nul.
On n'a plus rien.
On achète nos fusils qui étaient faits à Saint-Etienne il y a 50 ans, on les achète à l'Allemagne. Nos camions, ils sont américains.
Non, c'est la culture.
Safran, eux, ils marchent bien.
Non, mais c'est la culture française. C'est-à-dire que l'État échoue tout le temps. C'est-à-dire que l'État fait pas. Nous, on aimerait que l'État fasse des super profits avec tous les impôts que les gens donnent.
Ah, ça, oui.
Et voilà, on aimerait que l'État fasse. Alors, l'État échoue.
Comme au Portugal, ils sont excédentaires au Portugal. Voilà. Ils sont en train de rendre de l'argent au Portugal.
Voilà. Et ben, l'État échoue. Ouais, et dès qu'il y a des. Non, mais dès qu'il y a des entreprises qui réussissent. Parce que la réussite en France, c'est mal vu. Et dès que ça réussit, on va taxer, on va stigmatiser, on va dénoncer.
Et si Total était en difficulté, eh bien, on serait là. Il faut subventionner Total.
Voilà, c'est dingue. Et c'est la culture.
Total est en difficulté. Jamais demandé l'aide de l'État, d'ailleurs.
Non, mais
la culture française. En France, l'État échoue, mais demande aux autres d'être performants, et quand ils le sont, on les désigne du doigt et on leur dit rendez l'argent. Alors que
c'est le quotidien de tous les entrepreneurs.
Mais oui, c'est dingue, mais c'est l'État.
Et rappelez-vous quand même,
d'avoir été dans les GG, Sandrine.
Il y a M. Pouyanné qui dit quand même aussi qu'en 2023, ça leur a coûté entre 400 et 500 millions pour les aides. Donc voilà, ils sont là en train de dire voyez, on a quand même déjà fait un geste en 2023. Bon, arrêtez maintenant de.
Alors justement, qu'est-ce que vous en dites? Je remercie Sylvie d'avoir été dans les GG. Prix des carburants, chantage de Total. Est-ce que Total abuse ou est-ce que c'est justifié? Vous dites justifié à 65,7%. Dans un instant, avec les grandes gueules, vous pourrez encore prendre la parole au 32-16 parce qu'on va s'intéresser à l'histoire de Sophie la girafe, la petite girafe en plastique que tous les enfants ont eue. Bon, on découvre qu'elle est fabriquée en Asie. Alors, est-ce qu'on doit tomber à la renverse? Alors, il paraît qu'il y a un mensonge de la part de la société. Vous venez discuter de ça avec nous et vanter encore le Made in France. Il est 9h20, vous êtes avec les grandes gueules sur RMC et RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous voulez partir en vacances? Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. On a les clubs Bellambra pour vous, les amis. Les clubs Bellambra, la mer à la montagne, un séjour d'une valeur de 2000 euros. C'est le tout compris premium. C'est-à-dire que quand, si vous gagnez, quand vous arrivez chez Bellambra, on prend en charge vos enfants, on vous prend en charge si vous partez avec les gosses, et puis vous êtes tranquille, peinard. Vous avez juste à envoyer vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16, mer, montagne, campagne, vous choisissez parmi les 45 clubs. C'est un séjour d'une valeur de 2000 euros, c'est pour vous. Vous gênez pas, juste un SMS et rendez-vous à 11h20 tout à l'heure avec le gagnant ou la gagnante. Je vous propose maintenant qu'on parle d'un petit animal en plastique. C'est la grande Sophie, bien sûr, et le squeak squeak. Tous les parents l'ont entendu dans la chambre de leur enfant et leur ont offert la Sophie la girafe.
Bah, Sophie la girafe, c'est 700 à 800 000 exemplaires vendus chaque année. C'est ce que dit l'entreprise Vully qui la vend. C'est des centaines de milliers de girafes également vendues dans le reste du monde. Et depuis sa création en 1961, 70 millions de girafes ont été écoulées. Donc c'est une fierté, ça fait partie du patrimoine Sophie la girafe. Et encore, les nouvelles générations, quand on a un bébé, ben on offre une Sophie la girafe, une Sophie, voilà. Et donc on a tous mâchouillé une Sophie, on a tous fait nos premières dents sur Sophie. Et alors jusqu'à présent, on pensait que c'était du Made in France, c'était une fierté française parce que c'était produit en France. Eh bien non, c'est Mediapart qui a révélé que ce mythique jouet en caoutchouc, vendu donc par l'entreprise Vully, censé être fabriqué en France, était en fait depuis de nombreuses années massivement produit en Chine. Alors, l'entreprise se défend. Elle dit, oui, effectivement, on a des difficultés dans notre nouvelle usine de Saint-Nabor. Donc là, on fait venir des produits de Chine. Mais il paraît que ça va beaucoup plus loin. C'est ça, depuis 2013. 2013, en fait, que la fabrication serait massivement sous-traitée en Chine. Et voilà. Même Sophie la girafe est chinoise.
C'est-à-dire que, en fait, le groupe aurait joué sur l'ambiguïté. Le Made in France aurait été remplacé par un petit écrit avec né en France, Sophie la girafe.
Alors, est-ce que,
voire colorié en France.
Est-ce qu'on doit partir à l'envers?
Est-ce qu'on doit crier au scandale ou pas?
32-7.
Oui, Didier. Oui, il faut crier au scandale. Attends, ces gens-là ont fait un étendard de la fabrication française. Le NF sur l'emballage de Sophie la girafe, il est gros comme ma main, quoi. Et à un moment donné, ils en sont arrivés à relancer la chaîne de production qu'en cas de contrôle. Ils en étaient là. Oui. Donc, à un moment donné, moi, je le dis à longueur d'émission pour la bouffe, mais ça marche aussi avec Sophie la girafe. Quand t'as fait du Made in France un porte-étendard, il faut que tu sois irréprochable dans ta façon de produire. Et il faut qu'on aille plus loin. Plutôt que de payer les mecs à rien foutre dans les bureaux, l'État devrait payer des contrôleurs parce que c'est trop facile de mettre un coup de peinture, le packaging en France et dire c'est français, quoi.
Non, il
c'est exactement
les boulangers
pareil sur l'alimentation. Moi, je veux qu'on aille plus loin sur étiquetage, donc provenance, étiquetage, contrôle.
Du point de vue du droit, il y a tromperie?
Je pense, oui. Oui, sincèrement, on pourrait aller sur ce terrain-là. Parce que pour le consommateur, c'est pas neutre. Le sujet, c'est vraiment le décalage entre le discours et la réalité. Je veux dire, quand le consommateur, lui, il achète Made in France, il achète une promesse, il achète un savoir-faire, il achète quelque chose de local, puisque donc c'est ou national, tu vois ce que je veux dire. Mais, là, en fait, moi, je trouve que ça pénalise ceux qui jouent la transparence à 100% et qui disent, voilà, nous, on est vraiment fait Made in France. Donc oui, sur le terrain, juridique, on peut très bien aller sur la tromperie. Et j'imagine qu'il doit y avoir d'autres qualifications juridiques sur lesquelles on pourrait aller les chercher.
Parce que dire qu'elles sont peintes et emballées en France, pour en faire du Made in France, je suis désolé, ça suffit pas, quoi.
Oui, alors moi je serais un peu plus mesurée. D'abord parce que c'est né en France et que dans l'esprit de tout le monde, Sophie la girafe, elle est française, quoi qu'il arrive. Elle est française, c'est une création française et ça a été imaginé en France.
Une icône nationale.
Oui, voilà. Non, mais pour les, c'est important d'avoir. Quand on t'es au fin fond de n'importe où dans le monde, tu sais que Sophie la girafe, c'est français. Donc déjà, ça c'est acquis.
Ok, très bien. L'idée
française. C'est acquis. Voilà, c'est acquis. Après, moi, j'ai pas envie qu'on plombe non plus ça totalement dans un bashing qui. Je pense que juridiquement, effectivement, il faut clarifier et peut-être faut donner l'opportunité à l'entreprise de dire revenez à la fabrication 100% française et surtout dites-nous pourquoi depuis 2013 vous êtes passé chez c'est-à-dire que on a
ça, la vraie question c'est pourquoi ils sont obligés d'aller fabriquer en Chine
des normes des machins parce que derrière il y a des
quand même
non mais je suis pas d'accord de le prendre à la légère comme ça il y a des questions sur le fait que c'est pas très grave. Je pense que derrière ça il y a des normes, il y a des conditions de production, il y a certainement des composants qui sont interdits en France.
Et du coup, le travail, surtout.
Mais le coup,
ça veut dire que peut-être ça peut être dangereux.
Mais c'est tout un ensemble de choses. C'est tout un ensemble de choses.
Je suis désolé, le NF...
Non, mais
c'est
bien compris.
Oui, mais attends, d'accord, mais après,
d'accord,
derrière, on
mais le vrai sujet, c'est pourquoi l'usine, c'est une usine nouvelle en plus, de Saint-Nabord, est en difficulté.
Voilà.
Pourquoi en France, on nous promet qu'on va réindustrialiser vous allez voir, là, tous les candidats à la présidentielle, et on va recevoir Bruno Retailleau tout à l'heure dans les grandes gueules. Je pense qu'il va nous dire aussi la même chose. Je veux réindustrialiser le pays.
Avec et on le coup de la manœuvre que... énorme en France, tu peux pas
rester. On s'aperçoit que cette volonté se heurte au réel. Le réel, c'est le coup du...
La question, pourquoi tu mets Made in France, pourquoi tu ne mets pas le consommateur, pour ne pas enterrer quelque chose qui est aussi un peu de notre patrimoine, c'est de laisser l'entreprise s'exprimer sur pourquoi.
Voilà.
Et ensuite.
Mais ça ne change pas le reste.
Non, si, parce que c'est important, parce que soit on fait du bashing, on la descend et on la défonce, et plus personne n'achète la Sophie la girafe. Et au revoir. Et là, on la termine. Et auquel cas, merci, au revoir. Voilà. N'achetez plus, au revoir. OK. Ou soit on dit, écoutez, dites-nous pourquoi, Peut-être que le réel va raconter, parce que le réel, lui, il ment jamais. Peut-être qu'ils vont nous dire réellement normes, coûts, contrôle, machin, bidule, etc. Et que ça coûtait tant et qu'on était au pied du mur et qu'on l'a fait parce qu'on savait le risque qu'on prenait. Maintenant, comment on fait pour faire du 100% français? Ben, on vous explique. Ben, si on fait du 100% français, ben, on augmente Sophie la girafe de 30%.
Et alors, est-ce que c'est la fin du monde, Zora?
Est-ce que c'est la fin du
mais
monde?
Mais c'est surtout
que
une réalité qu'il faut expliquer.
À 7 euros, soit en concurrence avec une pâle imitation chinoise à 3 euros.
Il faut laisser l'entreprise grave, s'expliquer et pas la tuer. C'est
non, tout. Mais tu vois, voilà, moi,
on
j'en fais
un. Avec un élément matériel et un élément intentionnel. Parce que là, on
j'en fais un principe, Zora.
Zora, elle est en train de nous dire que oui, alors il faudrait connaître les raisons. Mais pardon, les raisons qui vont nous avancer, on les connaît déjà et ça ne va pas pour autant justifier la qualification juridique. Parce que là, à partir du moment où on te trompe.
Mais non. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas non plus mentir.
Ben oui, voilà.
Mais il faut pas que l'entreprise
ce qu'on reproche.
C'est que moi, je suis producteur de charolais.
Oui, oh.
Du charolais, tu peux en faire dans un feedlot en Amérique du Sud et demain vendre des burgers charolais en France, quoi. Et c'est exactement la même, le même principe.
Je suis d'accord.
Donc,
pour autant, j'aurais pas envie que, comme producteur de charolais avec un savoir-faire qui est le tien, j'aurais pas envie que si un jour tu as un accident d'entreprise ou que tu ça merde pour toi, c'est compliqué, j'ai pas envie qu'on te termine. Voilà.
Tu vois, j'ai pas envie. Si tu commandes,
je te tendrai la main.
Sophie la girafe sur un site marchand bien connu. D'accord, portable, application, tu veux commander.
Qui crée des emplois en France.
Ça coûte 15 euros. À un moment, il y a marqué sur la marque. Tu sais, dessous, tu regardes spécification du produit. Il y a écrit sur la marque fabrication française. Et en dessous, il y a marqué fabrication française. Et juste en dessous, une production réalisée à 60% sur le site de Rumilly. En Haute-Savoie. Voilà, 60%.
Oui, mais donc fabrication française, pas complètement. Il faut plus de transparence.
Moi,
après, est-ce que ça changera quelque chose sur le succès de la girafe? Non, les gens continueront à acheter une girafe.
Mais au moins, ils sauront.
Peut-être pas, on verra.
Ils auront le choix.
Ils ont le choix de quoi? Quel choix?
Déjà, on a notre industrie, elle est mal.
Ils auront le choix d'acheter des jouets.
Complètement chinois. Mais tous les jouets sont chinois. Mais pardon, Didier, dans quel monde tu vis? Mais moi, j'ai encore des enfants qui sont en âge d'avoir des jouets. Mais t'as quasiment pas de jouets français. Alors, parfois des petits trucs qui sont fabriqués en France en bois très jolis, mais qui sont beaucoup plus chers.
Mais c'est ça que je te dis, Olivier.
Personne va t'acheter des jouets en bois.
Si sur Sophie, la girafe, c'est marqué Made in China, c'est du Made in China. Et puis voilà, ça sera comme le reste des autres jouets. Mais tu m'as pas fabriqué en France.
Donc, t'as pas résolu le problème. Le vrai problème, c'est que si on veut que ça soit fabriqué en France, c'est qu'il faut jouer sur le coût du travail.
Je pense qu'il y a une partie des choses, c'est mort. Quoi.
Oui, mais le consommateur, Olivier, le consommateur, il n'en
achète des jeux Jura très chers, si tu veux.
Le consommateur n'est pas comptable du fait que ta chaîne de production, en partie, elle doit être faite dans un pays étranger. Le consommateur, lui, il est neutre, il est là et il fait confiance à ce qu'on lui dit. On lui dit, c'est français, j'ai envie d'acheter français. T'as envie d'être patriote, voilà. Peut-être, mais en attendant, tu ne mens pas au consommateur.
Moi, pour moi, c'est ça. Acheter, c'est un acte citoyen. Que tu fais
mais regarde l'industrie alimentaire.
Comme quand t'achètes bio, comme quand t'achètes local.
Dans tout, t'es floué.
Ceux qui vont reprocher à cette entreprise Vully de mentir sont les mêmes qui vont nous expliquer ah non, faut surtout pas toucher au coût du travail, que vous comprenez le modèle social.
On est d'accord, Olivier.
C'est les mêmes. C'est les mêmes qui vont ensuite pleurer.
Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais il faut aller plus loin sur l'étiquetage et le fait que ce qui est marqué sur l'étiquette, ça soit respecté.
C'est les mêmes qui font des enquêtes. Regardez l'industrie alimentaire. Le produit chimique dans l'industrie alimentaire, c'est hallucinant.
Ben oui.
Bon,
ben
voilà.
Tout à l'heure. Mais justement, allons plus loin dans l'étiquetage.
C'est là où j'en fais un principe.
Faut arrêter l'hypocrisie. C'est exactement pareil quand tu achètes une Renault.
Mais oui.
Tu peux te demander aujourd'hui, hormis le losange et la marque, qu'est-ce qui est encore français?
Mais rien.
Tu vois.
Donc, si tu veux des ouvriers français aujourd'hui, tu achètes une Yaris.
Et ben, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. On dit que
Yaris, elle est faite, assemblée, mais les pièces sont pas produites en France.
Oui, sauf que ne se vendent pas que c'est made in France.
Quand tu vas acheter une Renault, il te dit tout est fabriqué en Chine. Il te le dit pas. Il dit tu achètes une Renault et on te dit
c'est la marque française. Mais d'accord, mais ils sont pas là en train de se vanter et d'espérer le fait que j'ai été en plus.
Du côté de la direction de la fabrication de Sophie la girafe, on dit actuellement c'est intéressant aussi d'écouter, il dit on est en discussion avec la DGCCRF. La DGCCRF, c'est les répressions des fraudes.
Ils disent
non mais c'est pas ça, c'est ce qu'ils disent, on voudrait savoir précisément ce que regroupe le made in France.
Je veux savoir qui a le droit d'utiliser le made in France,
au lieu d'aider ces entreprises à fabriquer français, ça en revanche on va envoyer des fonctionnaires fonctionnaires de la direction de la concurrence. Ça, c'est, alors là, en général,
là,
ils seront
contre,
là.
Il y a du monde.
Et on va mettre des amendes. Là, il y a du monde. Là, pareil, là, ça marche. Là, on va mettre des amendes.
Mais on sera content.
On va mettre des amendes. On n'aura rien résolu.
On a, si t'es pas journaliste et que tu dis journaliste, t'es chopé par la loi.
Ah, bah, il y en a plein sur les réseaux sociaux.
Jérôme de l'Essonne, bonjour.
Il s'invente.
Bonjour, Jérôme.
Bonjour les grandes gueules.
Salut Jérôme, pâtissier dans l'Essonne. Vous avez des gamins?
Oui, j'en ai eu 4.
Et ils ont eu des Sophie la girafe?
Oui, tous. Tous des Sophie la girafe, des produits dérivés. On avait des biberons, parce qu'on trouvait ça sympa, on trouvait ça rigolo, et puis voilà quoi.
Et vous étiez attaché à ce que ce soit Made in France et vous vous sentez un peu floué ou pas du tout?
Non, je me sens, enfin, si, un petit peu quelque part, mais après, il faut aussi comprendre que bah, c'est une entreprise. Qui sont là pour faire du bénéfice et que c'était une entreprise française. Et ça va être, comme vous avez dit, les coûts de fabrication, les coûts de charges. Encore une fois, l'État aurait baissé les charges. Je pense qu'ils embaucheraient. Et puis, c'est ce qui va finir par se passer avec beaucoup d'autres entreprises françaises. C'est, encore une fois, c'est l'État se gave sur les charges, sur ceci. Pour 100 employés français, ils vont avoir 1000 employés chinois. Pourquoi ils se plaindraient?
C'est ça qui est dingue.
C'est ça le problème.
Jérôme, pour moi, ils ont tout à fait le droit de le faire. Ils ont bien juste sûr. À enlever le logo bleu, blanc, rouge de dessus.
Mais bien sûr, mais de toute
c'est
façon,
tout, quoi.
Bien sûr, non, mais qui l'enlève ou qui l'enlève
parce que tout le monde l'utilise, dans tous les domaines, on utilise le logo bleu, blanc, rouge. Hein. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a réellement de fait en France derrière, quoi.
De toute façon, ce logo bleu, blanc, rouge, on le retira de partout, de fait, puisque plus rien sera fabriqué en France, Didier.
Mais j'aimerais bien.
Super. Et donc,
arrêtons de communiquer.
Mais j'aimerais bien qu'on aille à cette rigueur-là.
Mais c'est débile, parce que ce qu'il faut.
Mais non, mais je suis peut-être débile, mais moi, j'applique ça à la bouffe et à un moment donné,
mais ce qui compte,
je suis désolé, des normes de fabrication dans tout aujourd'hui.
Mais ce qui compte, c'est que ce logo bleu, blanc, rouge se développe, pas qu'on le retire parce qu'on a bien respecté les règles. Voilà.
Et donc, si il se développe en faisant fabriquer en Chine, je suis désolé, ça
non,
sert à rien.
Non, encourager la fabrication made in France en revoyant certaines règles.
Jérôme, tu me mets 3 mois, merci, t'inquiète.
On a Mickaël qui va intervenir. Bonjour, Mickaël.
Bonjour tout le monde.
Bonjour,
Mickaël, conducteur de train, vous sentez flou? Vous vous êtes fait avoir ou pas, dites-moi?
Pas du tout. Très franchement, en fait, je vais vous expliquer aujourd'hui, on regarde plus du tout véritablement la provenance parce qu'on sait que tout vient de toute façon de Chine. Donc on se prend même plus la tête à savoir si ça vient de Chine ou pas. On l'achète en France, donc on se dit, de toute façon, c'est acheté français. On a confiance, on va dire, en la marque. Maintenant, qu'elle vienne de Chine ou qu'elle vienne d'Alaska, de Moscou, ça ne nous regarde pas. Et puis, c'est une tradition française, je veux dire, on a tous eu, mes parents m'ont donné, j'ai 46 ans, hein, donc il y a 40 ans peut-être, j'ai eu une girafe.
C'est la troisième génération.
On n'a jamais fait attention à ce qui a marqué, Made in France ou pas Made in France. C'est maintenant qu'il commence à y avoir plein de choses où on essaie de rester patriote, mais ça n'a rien changé, je veux dire.
Alors, c'est pour ça, justement, c'est pour ça que je tenais à lire l'étiquette. Parce que si aujourd'hui, avoir juste la conception et 60% de la fabrication du produit
en France,
ça sert à mettre le Made in France, c'est pour ça que le PDG a raison de dire, expliquez-moi précisément ce que recouvre l'étiquette
Made
in France.
Mais Mickaël dit quelque chose de très intéressant.
C'est fini, c'est fini.
On enlève des contingents entiers de jouets qui ne sont pas aux normes, qui sont cancérigènes, qui s'inflamment. Ça existe quand même. Quoi.
Merci à Jérôme, merci à Mickaël d'avoir pris part à notre discussion. Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas. Restez avec les GG en direct sur RMC, RMC Story, les 10h-20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est 10h-15, les GG, les grandes gueules, on parlait il y a quelques instants du Made in France. Le Made in France sont les clubs Bellambra, c'est prendre ses vacances en France dans les clubs ou hôtels Bellambra. 45 destinations, vous choisissez la mer, la montagne, la campagne, vous le faites en famille, vous le faites entre amis. Comme vous voulez, il suffit d'envoyer vacances par SMS au 732-16. Ensuite, vous prendrez le catalogue, la carte de France et vous irez où vous voulez. Ce sera du tout compris premium. À vous de jouer, à vous de gagner. Vacances par SMS au 732-16 et rendez-vous tout à l'heure à 11h20 pour le tirage au sort.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour à tous. À Paris d'abord. Un homme qui se promenait sur le Champ de Mars, mardi, a terminé au commissariat car son chihuahua n'était pas tenu en laisse, les GG. est-ce qu'on s'en fout ou pas, Sandrine?
On s'en fout.
La tête de Didier. Didier.
On s'en fout.
Ah, mais vous avez même pas écouté l'histoire.
Mais,
attends,
mais si,
c'est dommage.
Mais on est Zora, fais pas habitant.
Je vais dire, on s'en fout pas.
Bah, merci. Le journal Le Parisien explique que Jean-Pierre, résident du quartier depuis 40 ans, a l'habitude de promener ses deux chiens dans le secteur, dont Bobby, petit chihuahua d'à peine 5 kilos tout mouillé qui reste dans ses basques, évidemment, car il a peur de toute façon dès qu'il s'éloigne. Sauf que le ton est monté avec la police municipale. Jean-Pierre, excédé, n'a pas voulu présenter sa pièce d'identité. Des renforts ont été appelés, débarquent alors carrément une voiture et deux motos de la police nationale cette fois. L'homme a également été fouillé, emmené donc au commissariat. Il écopera certainement d'une simple amende, mais il a décidé quand même de porter plainte contre les policiers pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire.
Non, t'exagères là.
Bah, Zora.
Non, mais...
Il y a des policiers qui ont du temps à perdre.
Ouais, non seulement ça et.
Alors évite d'aller sur les vendeurs.
Je comprends que le propriétaire du chihuahua a pu être excédé. Je l'aurais été aussi. Mais après, c'est vrai que un chihuahua sans laisse sur les Champs-Élysées, moi j'aurais peur qu'il.
Champ de Mars, pardon,
qu'il se fasse écraser. Voilà, je m'amuserais pas à faire ça. Donc. Quand on a un animal de compagnie, on fait attention, on le laisse pas dans un train comme ça se balader ou dans la route. Et après, je suppose que l'arrestation, enfin la verbalisation a dû énerver le propriétaire. Et je pense que la garde à vue, elle est plus due au fait que ça s'est enflammé.
Oui, il y a eu un outrage.
Plus que le fait d'avoir un chihuahua. Donc, à la limite, il y a une co-responsabilité. Mmh. C'est-à-dire qu'on vient te voir et on te dit, vous êtes sur le Champ de Mars, votre chien est sans laisse, ce serait bien
de le mettre.
Voilà, tu dis, OK. Et d'ailleurs, pour la sécurité de son animal aussi. Hein, moi, par exemple, j'avais un petit caniche.
Ça s'appelait comment?
Filou. J'avais un petit caniche, bah, il mordait. Voilà.
Comme sa maîtresse.
Il mordait, il n'était pas très grand.
Comme
mais
toi, quoi.
Et oui, je mords, mais ça, tout le monde le sait. Et j'en suis très fier, d'ailleurs, de mordre. C'est important dans la société dans laquelle on vit.
C'est quand même toujours et encore fort toi, avec toi, les aussi. Faibles,
oui,
faible
oui,
avec les mords. Forts. Quoi.
Ah ouais. Tu peux
on
dire.
Enchaîne.
Attention, les GG. Coup de tonnerre dans le monde politico-médiatique français aujourd'hui. On apprend ce matin qu'Elisabeth Borne quitte la direction de Renaissance. Pardon. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zora?
Tu veux que je morde ou pas?
C'est un choc.
Ah oui, là, franchement, on s'en remet pas, Sandrine.
Non, on s'en fout.
Ah bon? Et Didier?
Ouais, moi, je suis comme Sandrine, je suis parti pour faire un air, on s'en fout.
Écoutez, 100% s'en fout.
Non, mais je m'en fous pas.
Écoutez ce qu'a dit l'ancienne Première ministre.
Zora, tu t'en fous, toi?
Non, je m'en fous pas.
Écoutez ce qu'a dit l'ancienne Premier ministre sur France Inter ce matin. Je ne me retrouve pas complètement dans la ligne du parti. Oui, la ligne du parti qui est maintenant complètement écrasée par Gabriel Attal et sa possible candidature pour 2027.
Zora. Ah bah la genèse de Renaissance, de En Marche, c'est quoi? C'est une armée de socialistes qui a profité de l'opportunité d'un PS mort pour rentrer dans Renaissance, En Marche.
Et mort bientôt.
Et comme Renaissance est mort bientôt, ben on essaye de retrouver, je sais pas quoi, de sa liberté.
Bah
donc,
oui, c'est
donc c'est l'opportuniste. C'est plus tu changes de veste, ça, c'est carrément tu changes de déguisement à chaque fois. Tu changes de déguisement en fonction des opportunités. Donc c'est pitoyable. Et comme de toute façon la gauche est en décrépitude totale,
c'est pour
ça qu'on s'en fout pas.
Est-ce que qu'Elisabeth Borne était directrice de Renaissance?
Oui,
non, elle n'est pas directrice.
Elle est membre de la direction.
Mais on comprend pas, on ne comprend pas trop ce qu'elle reproche maintenant au parti 10 ans après.
Elle l'a pas dit.
Elle trouve que maintenant Renaissance c'est une machine électorale au service de Gabriel Attal et que visiblement elle est pas proche de Gabriel Attal.
C'est juste une question d'inamitié avec des querelles personnelles
entre anciens premiers ministres et Emmanuel Macron.
C'est pour ça qu'effectivement
Didier Giraud s'en fout et on peut le comprendre.
Elle veut exister à un an de la présidentielle. Donc
est-ce que la carrière politique de certains macronistes ne va pas se terminer avec le macronisme,
ils vont être
si
casés.
Tu veux, tu vois.
Vous inquiétez pas.
On va en parler,
poussière avant, ils vont redevenir poussière.
Non, ils vont tous avoir des beaux chums.
Non, mais vous rêvez, vous. Tout le monde est recasé dans les cours des comptes, commissions, entreprises privées, consulting à le montant.
Mais justement,
qui meurt en politique,
la transition est parfaite, Zora, le grand verrouillage des institutions. Constitution continue avant le départ donc d'Emmanuel Macron l'année prochaine. Le chef de l'État propose cette fois son ex-conseiller spécial à l'Élysée, Emmanuel Moulin, pour prendre la tête de la Banque de France. On s'en fout ou
c'est
pas?
C'est la suite, non.
Zora,
non.
Ah non,
on s'en fout
Sandrine,
pas, c'est
passion, Didier.
Non. Didier.
Après, attends, après
Marmonne,
Amélie.
Marmonne, on comprend
oui, mais
rien.
Quand même.
Ouais.
Après Amélie de Montchalin, parachutée à la bah Cour oui. des comptes, Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. C'est donc cet autre proche du président qui est sur le point d'être nommé gouverneur de cette institution, nomination qui devra quand même d'abord être validée par le Parlement. Didier.
Bah, après 10 ans au pouvoir, ça fait toujours ça, quoi. Les gens, ils placent leurs pions pour tenir les institutions. Après 10 ans de pouvoir, quel que soit le bord politique, il faut tout un mandat pour dégager tout ce monde-là et redémarrer à zéro. Ça veut dire que derrière les 10 ans de macronisme qui nous ont emmenés à 6 pieds sous terre, eh ben, on va se taper 4 ou 5 ans pour assainir la fonction publique, la haute fonction publique d'État, parce que c'est tout des sbires à Macron et qu'il faudra reprendre 4 ou 5 ans avant de renommer des personnes compétentes.
Il y a eu les sbires à Hollande casés auparavant et les sbires à Sarko casés auparavant.
Mais bien sûr que c'est
comme
ça.
C'est la monarchie républicaine, hein, ça n'a pas changé.
Bien sûr que c'est comme ça, sauf que c'est quand même une forme d'impossibilité à réformer l'État français aussi, quoi. Le fait que cette administration-là, c'est d'abord la République des copains, je pense que ça contribue au fait qu'on peut jamais faire de réforme.
La Banque de France, il faut expliquer que c'est l'un des plus beaux postes de la République. C'est très bien payé.
Ça sert à rien depuis l'euro.
Je crois que c'est plus de 200 000 euros. Il y a voiture de fonction, logement de fonction. Et je me pense toujours à Jacques Maillot qui nous écoute et j'embrasse Jacques, qui nous disait, mais je ne comprends pas pourquoi la Banque de France existe toujours, puisqu'aujourd'hui, nous sommes passés à l'euro. Il y a une banque européenne, la BCE, dirigée par Christine Lagarde, et que la Banque de France ne sert plus à rien, puisqu'il n'y a plus de francs. Mais vous savez que la Banque de France, c'est des bâtiments partout en France. Ouais. C'est un patrimoine immobilier important. C'est quelqu'un donc qui va être payé, c'est des employés. Et on parle beaucoup de faire des économies. Il y aurait peut-être moyen de faire des économies.
Faut taxer Total qui fait des
économies. Et je rajouterai.
Dans la partie qui vont piquer à Total et qu'on ne verra pas aux pompes, et ben voilà. Il y a
Monsieur Emmanuel Moulin, qui est sans doute très compétent, mais enfin, il a été secrétaire général de l'Élysée, c'est donc il a dirigé l'État. L'État qui est surendetté, est-ce que c'est le mieux placé pour gérer la Banque de France aussi? Ça aussi, je me l'interroge.
C'est vrai qu'en 10 ans, il a amélioré le truc, quoi.
Le fond du sujet, t'as bien compris, c'est qu'en fait, c'est une vieille tradition française de la 5e République. Parce que
non, de la monarchie, c'est encore pire.
Mais, et donc, à un moment donné, il va bien falloir revoir tout ça.
Ça vient avant.
Est-ce que je suis pas né avant? Je vais rappeler à quoi sert la Banque de France. 3 prérogatives. Mise en œuvre de la politique monétaire française avec la Banque Centrale Européenne.
Voilà.
L'émission des billets, c'est-à-dire que la Banque de France est la seule habilitée à fabriquer et mettre en circulation les billets en euros. Oui. Et c'est la Banque de France qui détruit les billets abîmés. Et puis ensuite, c'est la Banque de France qui surveille la stabilité financière, qui surveille les marchés, qui surveille les assureurs, et elle est garante aujourd'hui de la gestion française. Ensuite, elle a des missions de service public qui sont le surendettement, le droit au compte, si jamais tu es refusé par une banque, tu dois en référer à la Banque de France. Et c'est les statistiques économiques.
Et les interdits personnes. Bancaires. Ça,
oui, mais est-ce que vous avez envie que LFI ou le RN on confie ses missions à LFI ou RN après 2027?
Ben c'est pas qu'on en a envie, c'est que.
Envie que ça ferme.
C'est
mieux.
C'est bizarre, c'est de placer ses copains, sachant qu'on quitte le pouvoir, qu'il y aura d'autres personnes qui vont arriver au pouvoir, qui vont se retrouver avec des gens dont la légitimité est la seule légitimité, c'est d'avoir été pote de ceux qui étaient au pouvoir.
C'est une façon de faire perdurer tes idées, même quand t'as perdu.
Non, mais ceux qui font de la politique savent très bien que le pouvoir, il est toujours bloqué par la technostructure et par la haute administration, puisque c'est elle qui a le dernier mot.
Pour être précis.
C'est elle qui met en œuvre. On se demande pourquoi souvent la France est en panne.
Le montant brut annuel du traitement du salaire de la Banque de France est aux alentours des 280 000 euros. Alors bien évidemment, je ne pense pas qu'il ait une carte ticket restaurant ou qu'il aille chez Master Poulet.
Il est mieux payé qu'un ministre.
Le salaire est fixé. Il a le rang de conseiller d'État Le salaire est fixé par décret. Il gagne quand même quasiment 2 fois moins que la présidente de la BCE, qui est aux alentours des 500 000 euros par an, c'est-à-dire Madame Christine Lagarde. Voilà, pour être précis concernant la Banque de France.
Et il a un appartement de fonction, ce que tu n'as pas précisé.
Non mais franchement, est-ce que nous, on ferait pas la même chose si on était à leur place? Est-ce qu'à un moment donné, on ferait pas aussi confiance à nos amis, en qui on voit véritablement leurs compétences? Parce que là, le Moulin, il a un CV qui est très très bon, très compétent. Pourquoi ça serait pas légitime
mais
aussi
pas
de pouvoir placer les gens en qui tu as confiance, que tu connais et avec
Sandrine,
qui tu as travaillé depuis longtemps? Pourquoi
Sandrine,
confiance à quelqu'un d'autre que tu ne connais pas.
C'est pas le problème de Moulin. D'abord, on a affaire à la France, on a affaire à l'État. Et le problème, c'est la méthode de reproduction, la reproduction entre soi. En fait, c'est ça, c'est les élites.
Oui,
c'est toujours les mêmes.
Aux États-Unis,
quand un nouveau président arrive, on change
tout le monde dégage dans la dégage.
Dans un instant, avec les GG, avec les Grandes Gueules, avec Sandrine Pégan, avec Zora Bitant et avec Didier Giraud, le chemin de croix, il paraît qu'on ne peut pas dire ça à la télévision publique.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.